Région du Monde, Geneviève Delru.
Bonjour à tous. Quand un rabbin et un responsable de la communauté musulmane décident de retrousser leurs manches et de parcourir côte à côte leurs écritures respectives, à savoir la Torah et le Talmud d'un côté, le Coran et les Hadiths de l'autre, et d'en relever les passages qui incitent à la violence ou au rejet, cela donne un livre audacieux et porteur d'ouverture. Les versets douloureux, publiés chez l'éditeur belge Le Su, dressent l'inventaire de ces textes embarrassants qui demandent interprétation, relecture, distance. La démarche de David Meyer et de Soyed Bencher demande un courage religieux, voire du courage tout court. Tous deux appartiennent à la même génération et sont engagés dans le rapprochement entre les religions. Le rabbin David Meyer a 41 ans, il a la double nationalité française et israélienne. Il a fait ses études rabbiniques à Londres et a exercé la fonction de rabbin pendant plus de 10 ans en Angleterre et en Belgique. Aujourd'hui, David Meyer vit à Bruxelles, où il enseigne dans diverses universités, notamment la pensée juive contemporaine. Alors pourquoi estime-t-il qu'aujourd'hui, pour les religions monothéistes, le temps de l'autocritique est arrivé? David Meyer.
Moi, je pense que quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, dans l'actualité du monde, on se rend bien compte de la nécessité de réfléchir sur le potentiel, soit positif, soit parfois négatif, des religions. Le potentiel positif, on le connaît. Le potentiel négatif, il est très très souvent mis en évidence par l'actualité. Et ce potentiel négatif, en général, il est nourri par un certain type de lecture de certains morceaux choisis. Des textes révélés ou des textes sacrés. Et quand on voit ça, je pense qu'on peut pas faire l'autruche et fermer les yeux et prétendre que le problème n'existe pas. Donc je crois que la nécessité de l'autocritique, elle existe d'abord à ce niveau-là, en prenant soi-même sur soi sa part de responsabilité et de dire, bon, bah il faut bien faire quelque chose par rapport à ces versets qui peuvent être violents, qui incitent à la haine, et à ce moment-là, proposer une autre lecture, et de là la nécessité de l'autocritique.
Alors entrons ensemble dans le vif du sujet, David Meyer. Parmi les grands versets douloureux, il y a le sacrifice d'Abraham. Alors c'est très intéressant, vous avez une lecture effectivement tout à fait différente. Pour vous, il ne s'agit pas d'un acte de foi sublime en quelque sorte, mais si on le prend à la lettre, eh bien, c'est le prototype même de l'extrémisme religieux.
Oui, je pense que c'est intéressant en tous les cas de proposer une interprétation dans laquelle, plutôt que de regarder la figure d'Abraham comme le modèle à suivre dans une sorte de foi aveugle, on nous montre justement les conséquences dramatiques de la foi aveugle d'Abraham, qui au début du récit est prêt relativement allègrement à aller sacrifier son fils parce que il pense que Dieu lui a dit. Bon, alors ça a des connotations politiques évidentes. Le nombre de personnes qui pensent que Dieu leur a dit que et que, entre autres, ils vont aller sacrifier et tuer les autres, on sait bien que, malheureusement, il y en a énormément. Donc on a besoin de se baser sur ce verset et d'essayer d'en proposer une autre lecture. Il me semble, en tous les cas, que la réflexion sur Abraham, elle appelle justement à la grandeur d'Abraham à la fin du verset, à la fin du chapitre, et non pas au début du chapitre. La grandeur d'Abraham, c'est pas quand Abraham est prêt à tomber dans la foi aveugle. Il a beau être le plus grand monothéiste, il tombe dans le piège de la foi aveugle. Mais là où la grandeur d'Abraham se révèle, c'est que d'une façon ou d'une autre, à la fin, il comprend que même lui doit être critique par rapport à ce qu'il pense avoir entendu de Dieu. Donc déjà, la notion d'autocritique, elle est là. On nous parle de la voix du messager de Dieu qui est arrivé, mais on ne nous dit pas très bien ce que c'est que la voix du messager. La voix du messager, c'est peut-être aussi quelque chose à l'intérieur d'Abraham qui lui dit « halte ». Halte, quelque part, c'est pas parce que tu crois avoir entendu qu'il faut faire. Et de là s'engrange une sorte de réflexion sur une théologie de la transgression, d'une certaine façon, qui serait de dire, c'est pas parce qu'on m'a dit que, ou c'est pas parce que j'ai cru comprendre que je dois faire. Le jugement moral doit rester impérativement le centre de la réflexion. Et il y a un rejet total de la foi aveugle, à mon sens.
Alors, David Meyer, parmi les grands versets douloureux, vous citez le livre de Josué, avec Amalek. Là, c'est effectivement un passage très difficile et très douloureux.
C'est très très douloureux. Le livre de Josué, il est très douloureux parce que c'est la totalité d'un livre. Donc c'est une approche un peu différente que d'isoler un verset. C'est vraiment regarder la totalité de ce livre. Et c'est un peu comme j'ai essayé de le décrire, un livre hémoglobine, parce que on nous parle de la conquête de la terre et on nous dit, bon bah les enfants d'Israël, sous l'ordre divin qui a été retransmis par Josué, vont et détruisent tout. Hommes, femmes, enfants.
C'est ça. Alors effectivement, on va resituer le contexte. C'est le peuple d'Israël en marche vers Israël à la sortie donc d'Égypte et qui entre dans une phase de conquête sanglante.
Oui, c'est la conquête de la terre. C'est donc ça. Après les 40 ans dans le désert, Moïse est mort, Josué prend la relève et ils vont finalement traverser le Jourdain. Ils vont prendre la conquête de la terre promise et ça se passe dans une violence absolue. Et souvent, politiquement, en tous les cas, je sais que ce livre est utilisé en disant bon ben voilà, c'est le droit à la violence pour la conquête de la terre et les connotations politiques sont d'une évidence flagrante. Le problème, c'est de dire comment se fait-il qu'un livre aussi violent soit dans la Bible et est-ce que c'est véritablement une carte blanche à la violence ? Moi, je refuse en tous les cas de croire que c'est une carte blanche à la violence et donc j'essaie d'en proposer une autre lecture qui était basée sur des interprétations plus anciennes, André Nair entre autres, mais qui était de dire finalement le livre de Josué n'est pas le livre d'un succès, c'est le livre d'un échec. Et de quel échec s'agit-il ? Ben, il s'agit de l'échec des hommes qui oublient qu'ils sont des partenaires de Dieu. Et que finalement, dans le livre de Josué, lorsque Dieu demande à l'homme « va détruire tout le monde », il ne s'attend pas à ce que l'homme se comporte comme un esclave qui obéit sans réfléchir. Il s'attend à un homme qui argumente, un homme qui réfléchit, un homme responsable. Et donc la leçon du livre de Josué, et à ce moment-là, ça serait pour ça que le livre est inscrit quand même dans la Bible, ça serait justement de dire « regardez ce qu'il se passe lorsque vous oubliez que vous avez l'obligation de réfléchir ». L'obligation d'être responsable. Vous allez tomber dans la violence la plus abjecte, et si vous voulez voir de quoi elle a l'air, eh bien regardez le livre de Josué, et vous allez voir un peuple qui en massacre un autre parce qu'il a oublié son sens de la responsabilité. Et c'est ça la lecture que j'essaie d'en proposer.
Alors que faire effectivement, malgré tout, avec ce livre aujourd'hui, dans ce contexte actuel, de spirale de la violence ? Que proposez-vous concrètement ?
Je crois que la première chose qu'on propose, c'est une sorte de détachement par rapport à la lecture d'un texte sacré, en se disant faites attention à tout ce qui semble être sacré et intouchable. Il n'y a rien qui soit intouchable. Les choses doivent être réfléchies, elles doivent être mises en mesure, elles doivent être pondérées, et que à partir du moment où on est capable de faire ce travail-là avec quelque part, l'élément le plus sacré d'une tradition religieuse, entre autres pour le judaïsme et l'islam, certainement le christianisme aussi, mais enfin le texte révélé, eh bien on se dit que peut-être on est capable d'appliquer le même principe de distanciation vis-à-vis d'autres facteurs, ne serait-ce que le facteur territorial, ou bien le facteur de l'honneur, ou le facteur de la vengeance, ou le facteur de toute autre chose, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'application plus politique et plus général de ce même principe de distanciation et de réflexion qui peut éventuellement contribuer, en tous les cas au dialogue certainement, et puis peut-être de façon un peu plus vaste, à une pacification qu'on souhaite quand même un peu de ces régions tourmentées.
Question par rapport à l'actualité israélienne, quelle est votre réaction, vous, en tant que juif, en tant que rabbin, en tant qu'homme de paix, face effectivement à cette escalade de la violence, face à cette réponse très disproportionnée entre un soldat israélien qui va mourir et puis une centaine, même plus, 150 victimes du côté palestinien.
Oui, la disproportion existe, mais elle n'est pas nécessairement telle que vous l'avez mentionnée, parce que la disproportion n'est pas par rapport à un soldat israélien qui va mourir, elle était plutôt par rapport à plusieurs années de tirs de roquettes sur une ville. La disproportion existe sans doute, mais elle est quand même de civil à civil. Moi, je crois que ce qui me fait peur, c'est pas nécessairement les explosions contenues de violence, même si elles sont toujours condamnables. Je crois que ce qui est vraiment dangereux dans le conflit, c'est l'utilisation d'une volonté de croire en une certitude religieuse de bon droit, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Et que, à mon sens, c'est ça ce qu'il faut essayer de briser.
Alors, dans le livre, vous situez la place centrale de cette phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Pour vous, c'est le pivot du judaïsme qu'il faut...
Oui, c'est effectivement le pivot du judaïsme exprimé depuis très longtemps, que ce soit dans le Talmud ou que ce soit même dans le texte de la Torah, donc du début de la Bible, parce que c'est vraiment le cœur géographique avant d'être le cœur philosophique, c'est déjà le cœur géographique de la Torah au milieu du livre du Lévitique qui est le milieu de la Torah. Donc le « aime ton prochain comme toi-même », il est là. Le problème, c'est toujours de savoir comment est-ce que j'y arrive. Quel est le chemin qui me permet d'y arriver ? Est-ce que l'amour se commande ? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je me comporte envers mon prochain comme si j'aimais mon prochain, si ça ne peut pas être commandé ? Et on voit qu'il y a énormément d'écueils. Et le texte de la Torah, en mettant l'accent sur les versets douloureux, nous montre tous les écueils possibles qui viennent se placer face à la problématique de l'amour du prochain. Et donc je crois qu'il faut essayer de trouver une façon de contourner ces écueils, d'en trouver une autre lecture qui nous permette de nous rapprocher spirituellement, philosophiquement, du cœur du message qui, évidemment, est l'amour du prochain, un amour qui se traduit dans la réalité concrète de ma relation. C'est pour ça que je dis, comporte-toi envers ton prochain comme si tu l'aimais, entre parenthèses, même si tu ne l'aimes pas. C'est un peu cynique, mais je pense que c'est une lecture qui n'est pas tout à fait fausse.
Merci David Meyer. Soyeb Bencher a 47 ans. Il est né dans une famille algérienne qui compte plusieurs imams. Lui-même, docteur en sciences religieuses, a été grand mufti de Marseille pendant 10 ans jusqu'en 2005. Cette année-là, il fonde, à Marseille, toujours l'Institut des sciences islamiques. Soyeb Bencher est une figure en France du dialogue islamo-chrétien et il est connu au sein de sa communauté pour ses positions réformistes et son franc-parler. Un ton que l'on retrouve dans le livre Les versets douloureux, dont il est le co-auteur aux côtés du rabbin David Meyer et du jésuite Yves Simon. Pour Soyeb Bencher, la relecture de certains hadiths est incontournable, notamment pour l'avancée du dialogue interreligieux.
Depuis une trentaine d'années, et en partie grâce à Vatican II, on a commencé à faire le vrai dialogue interreligieux. Tout le monde reconnaît tout le monde. Mais malheureusement, ce dialogue était à l'envers. Voilà un livre qui remet le dialogue à l'endroit. C'est-à-dire, avant de reprocher à l'autre son imaginaire et sa tradition qui véhicule des fausses idées sur sa propre religion, non, il faut d'abord vérifier dans sa tradition ce qui ne passe pas, ce qui n'est pas communicable, ce qui est générateur d'incompréhension. Et si on est homme de foi et sincère, on commence par cela.
C'est-à-dire que là, chacun décide de balayer devant sa porte.
Si je suis sincère, je ne peux pas dire aux juifs que le Coran n'a jamais incité les musulmans
à en découdre.
Et à chaque fois où il y a le mot « fils d'Israël » ou « juif », c'était positif. Il y a positif, il y a négatif, mais surtout négatif. Et je peux l'expliquer par des raisons historiques. Je ne suis pas non plus en train d'incriminer le Coran, qui est le fondateur de ma foi. Mais j'essaye de lui rendre justice en expliquant le contexte historique.
C'est-à-dire, par exemple, lorsque le prophète s'en prend à Médine aux Juifs, expliquer qu'en fait, au départ, il pensait les convertir, et face à cette déception, il devient effectivement critique.
Nous, on attribue ça à Dieu, ça c'est la foi. Mais historiquement, ça s'explique. Le prophète, une fois, il était à Médine, 2 ans, 3 ans après, il était sûr que jamais il ne peut avoir l'adhésion des juifs à sa nouvelle religion. C'est là où les choses commencent à
gripper.
Absolument. L'autre chose qui est nécessaire, c'est que l'unique fondateur de la foi, c'est le Coran. Ni l'histoire, ni ce qu'on appelle les sciences religieuses, qui est une œuvre humaine, n'est plus ni moins valable pour un temps donné, qui n'est plus valable pour un autre. Et celle-là aussi, selon les conflits, selon les controverses, peut véhiculer la haine de l'autre. Aujourd'hui, nous devons être fiers de ce grand génie de la tradition et du patrimoine musulman, mais nous ne devons pas rester l'esclave de ce patrimoine. Il a été fait pour une génération donnée. Et le progrès d'une génération, s'il stagne, il devient une régression pour une autre génération. Ça, c'est évident.
Alors, dans votre livre, intitulé « Les versets douloureux », Soyeb Bencher, vous donnez l'impression de vouloir, en quelque sorte, libérer le Coran, la révélation coranique, sur 23 années, libérer le Coran des hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète.
Le prophète lui-même a interdit à ses adeptes d'écrire autre chose que le Coran. Les musulmans, avec le temps, ils ont commencé à rédiger les propres propos du prophète lui-même. C'est un paradoxe. Et personne ne le signale comme il faut. Donc, le hadith, on a commencé à l'écrire un siècle et demi après la mort du prophète. C'est un ensemble d'adages, de gestes, de paroles attribués au prophète à travers des chaînes de transmission. C'est un travail très compliqué, mais il reste une œuvre humaine.
Avec ses faiblesses.
Oui, avec ses faiblesses. Déjà, le volume du hadith est à peu près 300 fois le Coran. C'est un océan. Et on trouve la chose et son contraire. Même un débutant dans les sciences islamiques, ils sont la fabrication d'un hadith. Le hadith est le grand problème de l'islam. Les mouvements salafites d'aujourd'hui, ils sont préoccupés par le hadith plus que par le Coran. Ils lisent peu le Coran, ou bien ils lisent uniquement dans la prière.
Parmi les versets douloureux, vous citez le verset « Mangez avec le juif, mais ne dormez pas avec lui, dormez avec le chrétien, mais ne mangez pas avec lui ».
D'abord, il faut dire à l'auditeur que le mot verset ici, c'est pas l'unité de la sourate coranique. Le mot verset, c'est-à-dire ici, c'est conceptuel. Tout détail que véhicule la tradition, c'est un titre. Oui, il y a des pseudo-hadiths qui ne sont écrits nulle part, et qui sont véhiculés par la tradition orale, et qui rapportent ce genre d'absurdité et d'aberration. Et ça montre à quel point chaque groupe construit son identité en s'éloignant, en noircissant l'autre.
Alors justement, Seyyem Bencher, face à ces hadiths, quelle attitude préconisez-vous aujourd'hui? Que faut-il faire?
Pour moi, les choses sont claires. Le hadith n'a aucune autorité devant le Coran. Il faut le sauvegarder. C'est une richesse. Parfois, on trouve des choses franchement très, très pointues. Et ça fait partie du patrimoine humain. Il faut le sauvegarder, mais il faut lui enlever le statut d'être source de la foi.
Concernant l'apostasie beaucoup plus grave, celui qui change sa religion, tuez-le.
Ça, c'est un hadith considéré comme certifié.
Voilà, alors.
Il est parmi les premiers hadiths mis à l'écrit. Ce hadith, comment un hadith peut être autonome par rapport au Coran?
Oui, qui dit « à vous, votre religion, et à moi, la mienne ». Hein, sourate 109, verset 6.
Plus que ça, il y a des dizaines, j'ai pas tout mis.
Nulle contrainte en religion, la bonne guidance se distingue de l'errant. Sourate 2, verset 256.
Tu n'as sur aucun pouvoir despotique. Guide, tu n'es là que pour guider. Voilà, le Coran est clair. Forcer quelqu'un à croire, c'est absurde. Ce hadith, pour moi, il est nul. Ça montre que le hadith est vraiment loin d'avoir l'authenticité du Coran. Il ne peut pas abroger le Coran. Pour moi, il n'y a que le Coran. Toutes les autres sources, elles sont naturelles et humaines.
C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, ce qui fait autorité en islam, c'est le Coran.
Oui, et même le Coran. Il passe forcément par l'intelligence de l'homme.
Finalement, ce que vous reprochez, Seyyem Bencher, aux musulmans aujourd'hui, c'est une forme de paresse intellectuelle.
Oui, plus que paresse, hein, c'est un handicap total. Nous avons perdu l'érudition traditionnelle sans la remplacer par une pensée moderne, capable de répondre aux besoins du siècle. Et il y a des gens qui réfléchissent, qui sont compétents et qui sont bien informés, mais ils sont des individualités perdues dans notre planète. Ils ne forment pas encore une école.
Alors justement, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut imaginer en Europe, pourquoi pas en Égypte, au Maghreb aussi, eh bien un groupe de chercheurs où on retrouverait toutes les sciences humaines qui travailleraient justement
pas au Maghreb,
à cette relecture.
Ben pour réunir les têtes qui pensent et qui réfléchissent avec foi et intelligence, ça ne sera pas au Maghreb ni en Égypte.
Ça sera où?
Ça sera tout de suite récupéré politiquement. Normalement, c'est en Europe. Une Europe laïque, dont la laïcité veut dire à la fois la protection de l'expression religieuse et une expression qui ne s'impose pas. Là, on peut, oui, normalement, la prochaine, j'espère, je prie pour ça, la prochaine école moderne de l'islam démarrera de l'Europe.
C'était Seyyed Bencher, co-auteur des Versets douloureux, publié chez Lassus. Religion du monde, Geneviève Delru, Patricia Lecomte, Valérie Royer vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.